Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, ravis de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Dans la matinée du vendredi, le pape a reçu en audience les participants au chapitre général de la Société du Verbe divin. Dans son discours, François les a exhortés à être des bâtisseurs de paix et des porteurs d'espérance dans un monde aujourd'hui blessé et divisé. Le Saint-Père a reçu également vendredi la délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople à l'occasion de la fête des Saint-Pierre et Paul qui sera célébrée samedi 29 juin. Aux frères du patriarcat, François a demandé de prier avec lui pour parvenir à la paix, mais aussi d'accompagner et de soutenir par leur prière l'année de grâce que sera le jubilé 2025. Nous y reviendrons dans l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi en République démocratique du Congo. Quant à l'actualité sociopolitique sur le continent, elle nous conduira entre autres en Mauritanie et en Afrique du Sud. Les Mauritaniens sont appelés aux urnes samedi 29 juin pour élire leur prochain président. Quels sont les enjeux de ce premier tour des élections, dont l'actuel chef d'État Mohamed Cheikh El Ghazouani reste le favori? Nous accorderons à ce propos la parole à Hichem Ben Yaïch, spécialiste de l'Afrique et expert en géopolitique, dans la deuxième partie de cette édition, avant de conclure avec l'actualité internationale de la semaine. Ce sera tout pour les titres. Les détails dans un instant dans cette édition.
Radio Vatican, Français Afrique, Christian Lossambé.
Que votre lumière brille devant les hommes, des disciples fidèles et créatifs dans un monde blessé, est le thème du chapitre général de la Société du Verbe divin dont les participants ont été reçus par le pape dans la matinée du vendredi au Vatican. Dans son discours, il les a exhortés à être à l'écoute du besoin de paix de ceux qui souffrent, en particulier les pauvres et les migrants, et à réfléchir à la manière de partager la joie de l'Évangile aujourd'hui, tout en respectant chaque culture et chaque peuple. Rappelant aux missionnaires du Verbe divin que leur vocation naît de la familiarité avec la parole de Dieu qui engendre, donne vie, inspire et motive, le pape les a invités à la fidélité et à la créativité, tel que l'indique le thème de leur chapitre général, pour apporter l'évangile à tous les peuples dans un monde marqué par les conflits et les violences. Et dans un monde aussi divisé et blessé qu'aujourd'hui, même en ce qui concerne l'environnement, l'évêque de Rome les a encouragés à être des bâtisseurs de paix et des signes d'espérance, afin de toujours susciter une nouvelle culture de l'amour, inspirée par la vérité apportée par le Christ. Lors d'une audience avec la délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople, à l'occasion de la fête des saints Pierre et Paul du samedi 29 juin, François a rappelé l'anniversaire du premier concile œcuménique l'an prochain, celui de Nicée, et a remercié le patriarche Bartholomée pour son invitation à le célébrer ensemble là où il s'est déroulé. La volonté commune et ferme d'aller vers l'unité a été réaffirmée au cours de cette audience. 10 ans après leur pèlerinage commun à Jérusalem et après que François et Bartholomée ont invoqué la paix au Proche-Orient depuis les jardins du Vatican, le pape a souligné l'exigence impérieuse de la prière pour que la guerre en cours en Terre Sainte prenne fin, que les chefs d'État et les partis en conflit retrouvent le chemin de la concorde et que tous se reconnaissent comme des frères. Aux frères du patriarcat, François a demandé de prier avec lui pour parvenir à la paix, mais aussi d'accompagner et de soutenir par leur prière l'année de grâce que sera le jubilé. Les crises et les guerres qui frappent de plein fouet les chrétiens orientaux étaient l'un des axes centraux de l'assemblée plénière de la ROACO qui s'est achevée jeudi par une audience chez le pape. Jamais les chrétiens d'Orient n'avaient été confrontés à autant de crises simultanées, l'Ukraine, la Terre Sainte, la Syrie, le Liban, l'Éthiopie, l'Érythrée ou encore l'Arménie. Les chrétiens de ces régions du monde restent au cœur des préoccupations du Saint-Père. Pour le cardinal Claudio Giugerotti, préfet du dicastère pour les églises orientales, ces crises détournent une quantité considérable de ressources.
Le texte du Saint-Père était vraiment... Il a touché les points les plus significatifs de la situation et il a touché exactement ce qui a été discuté dans la session de la ROACO, c'est-à-dire le problème de la guerre. On va se préparer pour rebâtir ce qu'on avait déjà bâti, maintenant détruit, et que nous essayerons de rebâtir. C'est 3 fois la perte d'argent, de force, de travail qui pourrait être employé pour l'améliorement de la situation internationale et qui sont là simplement pour essayer de faire renaître ce qui a été détruit. Bâtir et détruire pour rebâtir, c'est vraiment la stupidité qui devient système.
Parole à présent à notre correspondant Jean-Baptiste Malengue qui nous donne les détails sur l'assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, qui s'est achevée vendredi 28 juin à Kinshasa. Au terme de ces assises, Mgr Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi, a été élu à la tête de la CENCO, succédant ainsi à Mgr Marcel Outembi, archevêque de Kisangani. Accompagné d'une délégation du comité permanent, le nouveau président de la dite conférence épiscopale a rencontré jeudi le président Félix Tshisekedi, avec qui ils ont échangé sur la situation générale du pays.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le jeudi 27 juin une délégation du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, conduite par Mgr Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, président sortant de la Conférence épiscopale, venu présenter son successeur, Mgr Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi, avec les deux vice-présidents, l'évêque de Bondo, Mgr Étienne Ungeyoun, et Mgr Jean-Bertin Nadonier, évêque de Lolo. Ils ont été élus au cours de l'assemblée plénière de l'épiscopat qui se tient au centre catholique Caritas de Kinshasa jusqu'au vendredi 28 juin. Avec le président Tshisekedi, la délégation des évêques a échangé sur la situation générale du pays. Selon le porte-parole et secrétaire général de la conférence épiscopale, Mgr Donatien Ncholé.
La nouvelle équipe a aussi rassuré de son ouverture à travailler avec les chefs de l'État pour le bien de la population.
Les travaux de l'assemblée plénière de l'épiscopat se clôturent le vendredi 28 juin par une messe présidée en soirée dans la cathédrale Notre-Dame du Congo par le nouveau nonce apostolique Mgr Miki Alescovar, accueilli à Kinshasa le samedi 15 juin. Le jeudi 27 juin, le nouvel ambassadeur du Saint-Siège a présenté ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Faisons place à présent à l'actualité sociopolitique africaine. La campagne pour l'élection présidentielle de samedi en Mauritanie s'est achevée dans la nuit de jeudi à vendredi où les principaux candidats ont tenu leur dernier meeting. Le président sortant et grand favori, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a promis la victoire à Nakhchot après avoir mené campagne dans toutes les régions. La campagne s'est globalement passée dans le calme, même si des incidents ont éclaté lundi soir à Nouadhibou, dans le nord, lorsque certains partisans de l'un des candidats s'en sont pris à un meeting de supporters d'un autre concurrent, a rapporté le ministère de l'Intérieur dans un communiqué sans plus de précision. Le Congrès national ANC semble être dans l'impasse avec son principal partenaire de coalition qui réclame des portefeuilles clés dans le prochain gouvernement en Afrique du Sud, retardant l'annonce attendue du président Cyril Ramaphosa sur la formation de ce gouvernement inédit. La présidence a annoncé vendredi que l'ouverture du Parlement aurait lieu le 18 juillet, date à laquelle le président présentera les orientations de son gouvernement d'union nationale, incluant le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, DA, et de petits partis. Toutefois, aucune indication n'a été donnée sur la date à laquelle le chef de l'État, réélu mi-juin, annoncerait la nomination des ministres. Le président de l'Angola, João Lourenço, a déclaré jeudi que des négociations étaient en cours pour organiser très prochainement une rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi, ses deux homologues rwandais et congolais, afin de parvenir à la paix dans l'est de la RDC. L'Angola joue un rôle de médiateur dans la crise qui oppose les deux pays dans le Nord Kivu, est de la République démocratique du Congo, où des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, s'opposent à l'armée congolaise depuis fin 2021. Nous sommes en train de négocier au niveau ministériel dans la perspective de pouvoir très prochainement réunir les deux chefs d'État de la RDC et du Rwanda pour un échange direct sur le besoin inaliénable de parvenir à la paix définitive, a déclaré M. Lourenço à l'occasion d'une visite officielle en Côte d'Ivoire. La Cour suprême du Burundi a confirmé jeudi en appel la condamnation à la prison à perpétuité de l'ancien Premier ministre, le général Alain-Guillaume Bunyoni, a affirmé une source judiciaire. En première instance, en décembre 2023, en effet, M. Bougnoni avait été jugé coupable d'avoir voulu renverser le gouvernement et d'avoir menacé la vie du président Évariste Ndayishimiye, ainsi que d'enrichissement illégal et de déstabilisation de l'économie. Les Mauritaniens sont appelés aux urnes samedi 29 juin pour élire leur prochain président. Pour ce premier tour des élections, 7 candidats sont en lice, dont l'actuel chef d'État, Mohamed Cheikh El Ghazouani. Au pouvoir depuis 2019, il reste le grand favori de ce scrutin. Parmi les 6 autres candidats de l'opposition, 2 retiennent l'attention, le militant des droits humains Biram Da Abeid et le président du parti islamiste Tewassoul, Sidi El Mokhtar. Ils sont les 2 principaux adversaires du président mauritanien. Les candidats de l'opposition ne font pas forcément le poids dans cette élection et le multipartisme a pris une coloration ethnique dans ce pays essentiellement désertique avec une population d'environ 4,7 millions d'habitants, comme l'indique Hichem Ben Yaïch, spécialiste de l'Afrique et expert en géopolitique.
Les Mauritaniens ont l'impression de voir le jeu déjà fait. Certes, il y a 7 candidats, dont celui du président sortant. C'est vraiment des élections faites à l'avance, en quelque sorte. Mais bon, c'est quand même une bonne opération d'exercice citoyen. C'est quand même important d'aller voter, d'être impliqué dans la cité.
Mohamed Aoul Ghazouani est candidat à sa propre succession. Quel est le bilan de son premier mandat?
En réalité, il a été vraiment contrarié par quelque chose qui le dépasse. Le Covid-19 d'abord, ensuite la guerre en Ukraine. Ça c'est sur le plan international, mais ça a des retombées de politique intérieure. Et évidemment, le bilan est très contrasté. C'est un pays où tout est à développer. Il y a un problème d'eau, problème d'électrification, problème de sous-développement. C'est un pays qui ne manque pas de moyens et d'atouts. Il a du pétrole qu'il partage avec le Sénégal.
L'exclusion de l'ancien président Abdelaziz, emprisonné pour enrichissement illicite, autrefois mentor de Ghazouani, élimine un concurrent de taille.
Aujourd'hui, évidemment, Ghazouani veut avoir les mains libres. Il ne veut pas de concurrent. Il faut que le jeu soit ouvert. Et c'est très important dans un pays qui a des frustrations énormes. Le multipartisme, malheureusement, a pris une coloration ethnique. Et c'est ça le malheur de ce jeu. Parce que ça fausse tout. Ghazouani est décidé de gagner cette élection pour un deuxième mandat. Et on va voir.
Quelles sont les chances pour les autres candidats?
C'est vraiment ce qu'on appelle des candidatures de témoignage. En fait, ce sont des candidatures de gens qui ils savent qu'ils ne parviendront pas à avoir le pouvoir. Ça montre bien qu'ils sont là, qu'ils occupent le terrain pour l'opinion, pour l'international, mais ils n'accéderont pas au pouvoir. Mais c'est important de participer et de se battre. Et c'est bien qu'ils soient là, ça titille le pouvoir, et ça éveille ses réflexes. Ils peuvent se battre pour le pluralisme, pour la Mauritanie démocratique, et voilà, donc aux électeurs de décider. Et c'est important de montrer, même si les chances restent minimes, c'est important d'apprendre la différence.
Dans ces élections, l'ingérence du mouvement séparatiste Polisario inquiète certains qui craignent qu'un président mauritanien favorable à ce mouvement pourrait compliquer les relations avec le Maroc et impacter surtout la stabilité régionale.
C'est sûr, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le Maroc, le Maroc est un pays qui est en train de construire son émergence. Et je pense que le Polisario réactivé ou utilisé en Mauritanie, le Maroc ne va pas rester inerte. Et je pense que les tensions seront graves parce que vraiment aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, cette montée des populismes, cette espèce de tension partout, le Sahel et dans d'autres régions en Afrique, le Maghreb, on oublie la Libye, on oublie ces tensions entre l'Algérie et le Maroc qui pèse lourdement, surtout. D'ailleurs, la position de la Mauritanie est un pays de l'entre-deux. Vous êtes en Afrique subsaharienne et au Maghreb. Ça peut être aussi une équation, un pays de dialogue, un pays de concertation pour rapprocher. Quand on voit la structure de la société, je pense que c'est jouable. Mais la personnalité du chef de l'État est aussi importante dans ça.
Interrogé par Myriam Sandouno, Hichem Ben Yaïch, spécialiste de l'Afrique et expert en géopolitique, était notre invité du jour. Refermons cette édition par l'actualité internationale de la semaine qui nous est présentée par Françoise Niamia.
Ouvrons cette rétrospective de l'actualité internationale par les nominations d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne et celle de l'Estonienne Kaja Kallas comme chef de la diplomatie européenne. Des nominations qualifiées de mauvaises pour les relations avec Moscou, c'est ce qu'a estimé vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Madame von der Leyen n'est pas partisane d'une normalisation des relations entre l'Union européenne et la Russie, a-t-il déclaré à la presse, soulignant que Madame Kallas est connue, elle, pour ses déclarations tout à fait implacables, parfois même russophobes, violentes, a-t-il ajouté. C'est pourquoi nous ne pensons pas que la diplomatie européenne puisse agir de manière quelconque pour normaliser les relations, a ajouté M. Peskov. Les vols de drones militaires américains en mer Noire accroissent le risque de confrontation directe entre la Russie et l'OTAN. C'est ce qu'a dénoncé vendredi le ministère russe de la Défense, promettant de préparer une réplique en plein conflit ukrainien. Selon le ministère russe, ces drones américains servent à la reconnaissance et à la désignation des cibles pour les armements de précision fournis aux forces armées ukrainiennes par les Occidentaux. Une tentative de coup d'état militaire jeudi en Bolivie, le président bolivien Luis Arce se trouve confronté à sa pire crise depuis sa prise de fonction en 2020 dans un contexte de déclin économique. Les Nations Unies ont demandé jeudi une enquête approfondie et impartiale sur les allégations de violence entourant ce coup d'état manqué et un procès équitable pour les détenus. Les autorités boliviennes ont fait défiler jeudi des détenus menottés devant les médias, annonçant au moins 17 arrestations au lendemain du coup d'état manqué. C'était un débat télévisé très attendu aux États-Unis. Joe Biden et Donald Trump se sont affrontés jeudi devant les caméras de la CCN. L'actuel locataire de la Maison-Blanche et son prédécesseur ont pu étaler toutes leurs différences sur de nombreux sujets, inflation, immigration, guerre au Proche-Orient ou en Ukraine. Pour Joe Biden, l'enjeu était de montrer qu'il pouvait tenir le débat malgré son âge et Donald Trump a souvent répété ses slogans sans apporter de réponse très précise. À Atlanta, le compte rendu de notre correspondant Edouard May.
Dès les premières minutes du débat, Joe Biden cherche ses mots et semble affaibli. Sa performance était très attendue des électeurs avec les nombreuses critiques sur son âge. Et puis un Donald Trump plus calme qu'à l'ordinaire avec un ton plus mesuré. Mais cela ne l'a pas empêché d'attaquer son adversaire. Je n'ai pas compris la fin de sa phrase, je ne sais même pas si lui l'a comprise, a lancé Donald Trump à Joe Biden. Et Joe Biden qui a qualifié Donald Trump d'imbécile et de loser. Après la première demi-heure, Joe Biden a durci le ton avec des réponses plus précises, tandis que Donald Trump a souvent botté en touche sans répondre aux questions des journalistes. Son principal argument, Joe Biden détruit le pays avec sa politique migratoire et que lui, Donald Trump, fermerait les frontières. Le candidat républicain a tout de même clarifié sa position sur l'avortement. Il s'est dit contre, mais avec des exceptions, pour les viols, l'inceste ou des risques pour la santé de la mère. Donald Trump a également affirmé un grand nombre d'inexactitudes ou de fausses informations. À Atlanta, Edouard Maille pour Radio Vatican.
Aide, toi aussi le pape a aidé. Manifeste par un petit geste de grande valeur symbolique ton amour et ta confiance envers le Saint-Père. Soutenons tous ensemble le Saint-Père dans l'annonce de l'Évangile et dans la charité envers ceux qui en ont le plus besoin. Les personnes et les familles en difficulté, les populations frappées par la guerre ou qui ont besoin d'assistance humanitaire. Va sur le site obolo-di-san-pietro.va et clique sur « Donner maintenant ».
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambé qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.